Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça se dispute avec mes invités qui promettent d'être très agités ce soir.
Chahut.
Pas du tout, c'est pas le genre de la maison.
Julien Drey, fondateur de Mouvement Réinventé, avec un point d'exclamation. Hein,
c'est ça, oui, hein. Oui, peut-être on va l'enlever d'ailleurs.
Ah oui, non, oui. C'est pas mal comme ça.
Non, c'est très bien.
Gilles William Golden, avocat, oui. Bien sûr. On va aborder beaucoup de sujets, notamment cette folle semaine à l'Assemblée nationale qui a fait tant parler en tout cas. Mais avant cela, on va faire un point sur les titres avec le Flash Info.
Après les consultations, vient l'épreuve du feu pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Tous deux s'apprêtent à remanier le gouvernement. Un exercice de funambule qui doit tenir compte des nouveaux équilibres à l'Assemblée nationale, où la Première ministre présentera son projet mercredi 6 juillet. Le remaniement devrait donc avoir lieu en début de semaine, lundi ou mardi prochain. À l'hôpital, plus de 10% des 460 maternités françaises sont actuellement en fermeture partielle. Faute de soignants, les professionnels sont contraints de réduire la voilure en supprimant des consultations et en fermant des lits. Des chiffres sans doute inférieurs à la réalité, puisque sur le total des maternités en France, seuls 122 ont répondu à l'enquête menée par syndicats et associations. La guerre en Ukraine a propulsé l'inflation européenne à un nouveau record en juin dans les 19 pays de la monnaie unique. Le taux d'inflation s'établit à 8,6% sur un an, alors que les ménages sont déjà confrontés à la flambée des prix de l'énergie. De son côté, la France insoumise demande une commission d'enquête parlementaire pour comprendre les origines de l'inflation après les doutes exprimés par Michel-Édouard Leclerc sur certaines hausses de prix qu'il estime suspectes.
De retour dans Ça se dispute avec mes invités Julien Drey et Gilles William Goldnadel. Évidemment qu'on va revenir sur cette folle semaine de l'Assemblée nationale. Peut-être d'abord sur cette élection remportée par Éric Coquerel, président de la Commission des Finances. Julien Drey, il y a quelque chose aussi factuellement, de logique que ça aille à la NUPES. Par rapport au nombre, en tout cas, de députés qu'ils...
Je dirais, oui, c'est logique, mais en même temps, ça veut dire que donc désormais la NUP est un parti politique. Donc il n'y a pas de diversité.
Ça veut dire que c'est un intergroupe, une coalition, oui, bon, comme la coalition présidentielle.
La règle de l'Assemblée nationale, c'était le groupe majorité. Le plus gros parti minoritaire, je cherchais l'expression. Voilà, là, donc il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc c'est quand même, du point de vue du règlement national, on est borderline, mais il faut être honnête, bravo à Jean-Luc Mélenchon.
Ouais.
Bravo à Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Il a créé une telle agitation médiatique, à part tweet en disant la collusion qui est en train de se mettre en place entre Ensemble et le Front National, etc., et quelques autres présents sur Internet qui le relaient, qu'il a créé une sorte de pression qui fait que tout le monde a regardé ailleurs. Bon, donc on a élu M. Éric Coquerel. Moi, je ne vais pas faire de procès personnel à Éric Coquerel sur rien. C'est sur ses positions politiques que j'ai un problème. C'est quand même qu'on a un président de la Commission des Finances qui, sur un certain nombre de questions qui ne sont pas des petites questions, je pense notamment par hasard au soutien à Georges Ibrahim Abdallah, terroriste en prison, à d'autres questions, est marqué loin de ce que c'est l'esprit même de l'Assemblée nationale. Voilà.
Gilles William.
Oui, enfin, il y aurait beaucoup à dire, en dehors même de ce soutien à un terroriste condamné par la France. On le voit soutenir une affiche de Georges Abdallah. C'est quand même un terroriste condamné par la France pour complicité d'assassinat de deux diplomates. C'est quand même énorme. C'est quelqu'un qui accompagne des migrants ceints de l'écharpe tricolore pour occuper la basilique Saint-Denis.
C'est un militant politique.
Non, mais bien sûr que c'est un militant politique. Ça, il a le droit de militer politiquement. Mais occuper une église et qui, par ailleurs, est là où reposent les rois de France. Pardon. Et quand je vois cet éditorial du Monde d'aujourd'hui qui fait la leçon au Rassemblement national parce que la préférence nationale ne serait peut-être pas républicaine, alors même que les insoumis sont des collaborateurs de l'islamisme antisémite, je me dis que cette asymétrie-là, elle est devenue folle. Elle ne repose d'ailleurs plus sur rien.
Pour vous, les insoumis sont les collaborateurs de...
Alors écoutez, quand...
Pas collaborateurs au sens historique de ce qu'on dit collaborateur.
Mais pour autant que le mot collaboration, ils collaborent... Écoutez-moi, ils font venir à Paris M. Jeremy Corbyn, qui est mis au banc de son parti travailliste, pour antisémitisme virulent. J'ai un problème de vocabulaire. Et ils vont à des manifestations où on crie à la Ouagbar, contre, paraît-il, l'islamophobie, où on crie à la Ouagbar et où certains mettent des étoiles jaunes pour expliquer que les musulmans sont les nouveaux juifs. C'est un parti qui collabore, chaque mot étant pesé par moi, à l'antisémitisme islamiste. Mais clairement. Donc, quand je vois les donneurs de leçons de morale faire maintenant une asymétrie... Moi, je vais vous dire quelque chose. Mais là, c'est purement subjectif de ma part. Hein. Je dis que mon analyse personnelle, c'est qu'il n'y a plus d'extrême droite et il y a une extrême gauche qui est virulente, non seulement à l'Assemblée nationale, qui refuse... Il joue les élégances de serrer la main des autres. Moi, je préconise qu'on ne leur serre plus la main. Mais
référence à Louis Boyard.
Qui sera, oui, et qui sera en septembre dans la rue. Vous verrez.
Non mais,
et je pense, et je vais aller plus loin. Je pense que dans la réflexion même des macronistes et peut-être de leur chef suprême, je pense qu'ils craignent. Ils craignent d'ores et déjà l'extrême gauche, moins au sein de l'Assemblée nationale où ils ont fait un score moins bon que le Rassemblement national. Que dans la rue en septembre, en font l'alliance avec les syndicats les plus extrémistes. Donc, je vous dis simplement que l'élection, non mais avec la complicité de des républicains. Alors peut-être qu'ils n'auraient pas pu empêcher.
On va en reparler.
D'accord, mais je veux dire cette élection de quelqu'un qui même à l'intérieur des insoumis est extrêmement à gauche, c'est vraiment le signe que quelque chose ne correspond pas d'ailleurs à l'état d'esprit en France. Dans l'état d'esprit en France, on est loin de ça. Hein. Ce n'est pas des gens qui représentent la majorité.
C'est son deuxième mandat, quand même.
Si Gilles William me le permet.
Brièvement.
Oui, comme vous l'avez fait, comme vous venez de le faire. Je voudrais juste marquer quand même quelques différences. Je comprends ce que vous dites sur une radicalité qui naît aujourd'hui dans la gauche que représente une partie de la France insoumise et d'autres. Mais je ne vais pas dire non plus qu'il n'y a pas d'extrême droite en France. Et quand j'ai entendu la campagne, notamment d'Éric Zemmour et ceux qui l'ont soutenu et ceux qui s'exprimaient autour, on ne va pas me dire à moi que c'était des gentils garçons et qu'ils n'avaient plus rien à voir avec l'extrême droite française telle qu'on l'a conçue. Du temps des grands termes historiques. C'est la première chose. Deuxièmement, je n'aurais pas employé le terme collaborateur, parce que collaborateur, ça renvoie à une notion historique. Ouais. Et je pense qu'il faut faire attention, parce qu'il faut éviter, par les termes qu'on emploie, de leur donner à chaque étape la possibilité de se draper dans une forme de vertu en disant « Regardez comment vous nous traitez, comment vous assimilez, etc. » Ça leur permet d'éviter le débat sur le fond. Moi, avec Éric Coquerel, plus qu'avec d'autres dirigeants, je le reconnais, de la France insoumise, j'ai des divergences très profondes sur, effectivement, la manière dont ils conçoivent ce que j'appelle le campisme. C'est-à-dire, il y a les bons d'un côté, tous ceux qui luttent contre l'impérialisme américain, voilà, pour être honnête, et puis, occasionnellement, son allié, le sionisme, et tous les autres. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça amène, évidemment, à prendre des positions qui sont... avec lesquels je ne suis pas d'accord, etc. Voilà. Donc, y a, dans le vote qui s'est produit à l'Assemblée nationale, il y a effectivement quelque chose qui est une distorsion. Maintenant, c'est aux députés de prendre leurs responsabilités. Et à partir du moment où ils n'ont pas assumé cette bataille politique et c'est le problème qui est posé, et je finirai là-dessus, à la gauche aussi. À partir du moment où, à chaque étape, la gauche n'assume pas cette confrontation, elle passe sous la tutelle.
C'est-à-dire cette confrontation
d'idées. Je donne un exemple. Moi, j'aurais défendu la candidature de Valérie Rabault jusqu'au bout. Parce qu'elle était, une députée compétente, de qualité, reconnue sur tous les bancs de l'Assemblée nationale.
Mais vous savez bien que le rapport de force dans la NUPES entre la France insoumise et le PS...
Et il fallait aller... Mais je vous signale que les Verts, eux qui n'étaient pas très contents de la manière dont les choses se sont passées sur la question des vice-présidences, ne sont pas gênés pour présenter à la dernière minute deux candidats à la vice-présidence.
Oui, oui.
Voilà. Donc, à un moment donné, mais c'est ça le problème politique. Et le problème politique, il est majeur, parce qu'il faut sortir. Voilà. Que M. Coquerel soit un militant politique, qu'il défende ses positions, que la France insoumise défende ses positions, c'est la vie.
Oui,
je veux dire, c'est la vie politique, mais il faut que, notamment à gauche, pour éviter après que la gauche se retrouve prise en otage de positions qui ne sont pas les siennes, il y ait une force qui dise avec ça, ça et ça, nous ne sommes pas d'accord, et le dise avec véhémence.
Bon, Julien Drey a sans doute raison pour la gauche, mais a fortiori pour la droite républicaine, qui doit se retrouver sur les questions économiques, même si le Rassemblement national a évolué, plus proche de M. Tanguy, qui vient de chez Dupont-Aignan, que de l'extrême gauche de monsieur Coquerel. Mais je voudrais répondre quand même à deux choses qu'a dites Julien Drey. La première, d'abord, je voulais faire l'économie de réflexion sur Zemmour et Reconquête. J'étais sur le Rassemblement national. Je prétends, moi, qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, de mon point de vue, n'est plus un parti d'extrême droite. Et à telle enseigne même qu'il s'est gauchisé économiquement plus que je ne l'aurais voulu moi-même. Hein. Mais donc, c'est aujourd'hui un parti que je considère comme respectable et qui devrait être respecté. Quant à la querelle sémantique...
Là, maintenant, il est bien respecté.
Quant à la querelle sémantique gentille que me fait mon contradicteur, moi, je veux bien. J'assume le mot collaboration dans le sens usuel du terme, sans aucune connotation historique. Mais tout de même, Julien Drey, quand on sait l'usage sémantique que l'extrême-gauche fait du mot fascisme, ou même au-delà même de l'extrême-gauche, du fascisme, de la fachosphère, des fachos, etc., on peut se permettre quand même quelques libertés.
Alors on peut se permettre quelques libertés, je veux bien l'admettre, mais je pense que c'est, connaissant maintenant la manière dont les choses se mettent en place, si vous me permettez, c'est une remarque amicale, et parce que moi je pense qu'il faut aller au fond du débat politique, sur le projet que représente aujourd'hui, pas la NUP, la France insoumise, ah,
mais c'est
et Jean-Luc
projet,
Mélenchon.
C'est un projet
sur
commun.
Le projet politique.
Mais c'est un projet
c'est
commun
ça.
Avec le PS.
Et
c'est, il y a 600 c'est, mesures qui sont
c'est,
communes.
Vous avez bien compris que si j'en suis parti, c'est à cause de ça. Ouais. C'est parce que je pense que ça tourne le dos à l'histoire du Parti Socialiste, à l'histoire de Jean Jaurès. Puisque il a été revendiqué dans l'hémicycle, etc. C'est pas du tout l'histoire.
Et la branche Valérie Rabault, enfin je veux dire le courant de Valérie Rabault, ça représente plus le PS pour vous?
L'erreur de ses amis, ses camarades, c'est de croire qu'ils vont un jour ou l'autre reprendre la majorité dans le Parti Socialiste pour le remettre sur les bons rails. Je leur souhaite bien du plaisir.
Bon,
je pense que c'est une alternative qu'il faut construire. Il faut être extrêmement précis pour aller sur le fond du débat politique, y compris, si vous me permettez, je pense par exemple que sur ce que représente maintenant le projet politique démocratique que porte Jean-Luc Mélenchon, il y a un débat politique à porter.
Ils ont quand même près de plus de 70 députés. Donc
comme
représentent forcément un courant qui est extrêmement important.
Mais excusez-moi, mais comme le Parti communiste des années 60 était 10 fois plus important
que le Rassemblement national.
Mais je vous rappelle la manière dont Mitterrand s'y est pris. Quand il a mis des lignes en disant là-dessus, je n'irai pas et vous ne m'entraînerez pas ça, y compris en prenant le risque de perdre des élections, comme en 78 aux élections législatives, l'histoire lui a donné raison. C'est comme ça qu'il faut faire.
Bon, on va écouter Jordan Bardella et Sébastien Chenu, justement sur quelque part la responsabilité des LR dans cette élection d'Éric Coquerel.
Le premier groupe d'opposition, c'est le Rassemblement national. Et par une des magouilles entre les Républicains et la France insoumise, on a vu se dégager un axe LR, Coquerel. Donc ça va plaire à beaucoup d'électeurs de droite d'apprendre qu'on remet, avec le soutien des Républicains, la présidence de la Commission des finances à un révolutionnaire de la LCR, c'est-à-dire au pire de l'extrême-gauche, M. Coquerel, qui est l'aile gauche de la France insoumise, donc l'extrême-gauche de l'extrême-gauche, qui est un militant anti-flic, un communautariste, est quelqu'un qui défend des idées qui sont, je crois, dangereuses pour la démocratie.
Alors, moi, je pense que c'est politiquement un signal très dangereux qu'a envoyé LR à ses électeurs, disant qu'il préfère faire élire Éric Coquerel à la tête de la présidence de la Commission des Finances. Et on a vu une majorité qui n'a pas voulu, avec une espèce de passivité, qui n'a pas voulu s'en mêler, laissant encore Éric Coquerel, c'est-à-dire trahissant sérieux l'esprit de ce règlement. Non, mais ça veut dire qu'en fait, ils ont préféré tout trahir, les LR, leurs électeurs en particulier, la majorité, l'esprit du règlement de l'Assemblée nationale, et faire élire Éric Coquerel.
Je trouve que c'est un peu facile de dire que les LR, ils ont trahi leurs électeurs. Ils ont voté pour leur candidat.
Écoutez, donc, non, je comprends parfaitement le raisonnement de Bardella et de Chenu. Je suis persuadé, non mais attendez, pardon de vous le dire, je suis persuadé que dans 90% des électeurs LR, si on leur avait demandé à choisir entre Tanguy et Coquerel, ils auraient choisi Tanguy. Ouais. Voilà, même sans peut-être sans enthousiasme, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui me dépasse, si vous voulez.
On ne peut pas leur poser la question sur chaque fin.
C'est... Très sincèrement, et je n'arrive, mais je parle au premier degré. Alors qu'aujourd'hui, le Rassemblement national n'est plus un épouvantail. On a bien vu les résultats. Il semblerait même que, non seulement le Front républicain ne marche plus, mais il semble même qu'il y a une sorte de barrage silencieux contre l'extrême-gauche qui explique finalement les mécomptes. Il n'y a plus de surmoi véritable chez un républicain pour aller serrer la main et parler à un type du Rassemblement national. Donc je n'arrive pas. Franchement, au premier degré, je vous dis tout de suite mon incompréhension. Je n'arrive pas à comprendre ce qui me semble être une sorte de réflexe encore pavlovien. Mais alors même que vous verrez, verrez. Je pense que de la même manière qu'il y a eu une alliance des gauches, par un esprit de symétrie compréhensible, qui ne signifie pas une union parfaite, il va y avoir maintenant une alliance des droites. C'est la moindre.
C'est une ligne rouge qui sauterait, cette ligne rouge de Jacques Chirac, cette ligne rouge.
On est encore dans une manière de réflexion pavlovienne que je n'imaginais pas à ce stade de maturité politique.
Bon, je vous donne la parole dans un instant. Ouais, je viendrai juste avant. On fait le petit flash info avec Jeanne Cancard.
Pour ce premier week-end de vacances d'été, le trafic aérien s'annonce perturbé. Un nouveau mouvement de grève ralentit le fonctionnement de plusieurs aéroports, dont celui de Roissy-Charles de Gaulle. Un vol sur cinq est annulé demain matin. À l'origine de cette mobilisation, les employés qui dénoncent des conditions de travail dégradées et qui réclament des hausses de salaire. C'est un nouveau départ entre la France et l'Australie après la crise des sous-marins. Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre australien se sont rencontrés aujourd'hui et ont affirmé ensemble leur volonté de rétablir la confiance entre leurs deux pays gravement abîmés avec l'annulation par Canberra d'un gigantesque contrat d'achat de 12 sous-marins français. En Gironde, un réseau de contrefaçon de vin de Bordeaux a été démantelé. Le préjudice est estimé à plusieurs centaines de milliers de bouteilles. Sur les 20 personnes interpellées, 3 ont été présentées devant un juge d'instruction et mises en examen, notamment pour escroquerie en bande organisée et blanchiment, ainsi que tromperie sur la marchandise.
Julien Drey, sur cette ligne rouge, alors, entre les LR...
Par rapport à William, il y a des choses que lui ne comprend pas, mais moi, ce n'est pas les mêmes choses que je ne comprends pas.
Alors, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça qu'on vous met à 3 mètres tous les deux.
Je vais être honnête avec vous, je ne comprends pas l'attitude des Républicains qui ne passent pas un accord avec Emmanuel Macron. Sur le fond, il y a très peu de divergences idéologiques entre eux.
Bah, ce serait la fin des LR,
Mais ça sera la fin des LR en croyant qu'ils vont pouvoir jouer les députés d'opposition avec un Front National qui est fort, qui est cohérent et qui est au carré. Ils vont se faire, mais alors c'est écrit d'avance. Mais d'ailleurs, le Front National joue parfaitement sa partition de ce point de vue-là. Sans arrêt, leur dit vous êtes avec qui? Vous êtes avec eux? Vous êtes avec nous? Si vous êtes l'opposition, vous êtes avec nous. Ça tient une fois, deux fois, trois fois. Puis la quatrième, soit vous votez le texte du gouvernement, soit vous votez contre le texte du gouvernement. Et si vous votez le texte du gouvernement, ça veut dire que de fait, vous êtes en accord avec lui. Si vous votez contre, ils vont vous dire.
Mais on sait très bien que ça va finir comme ça, de toute façon.
Je ne sais pas, ça va très bien. Mais alors. Ne perdons pas de temps, si vous me permettez.
Est-ce que je peux tenter 30 secondes.
Je vous dis, donc, ne perdons pas de temps, et pour la démocratie française. Bon, parce que c'est ça que j'arrive pas à comprendre sur la manière dont les Républicains, en ce moment, essayent de se faire un chemin qui est une impasse, de leur point de vue. Bon, Après, par rapport au débat que nous avions en même temps sur la gauche, et c'est la même chose. Hein, je veux dire, c'est aussi des clarifications qui doivent venir dans les semaines et les mois à venir. Donc, on va vivre une période de confusion politique.
Bien sûr.
On est dedans. Elle va se voir beaucoup à l'Assemblée nationale. Alors après, il y a peut-être une surprise, vous savez, parce que j'en ai vu comme ça des fois. C'est pas sûr qu'une fois que Monsieur Coquerel se soit glissé dans les habits de la présidence de la commission des finances, de ce qu'elle représente, parce qu'il y a une autorité, des services qu'il va avoir en face de lui.
Oui.
Il va
lever le secret sur.
Je veux dire, il va pas avoir en face de lui des charlots, hein, les services de la commission des finances, le ministère. Il faut de la densité, sinon vous apparaissez pour un ridicule. Et j'ai remarqué tout de suite qu'il a mis la cravate. C'est un petit signe qui va peut-être se dire, c'est pas aussi simple que ce que je croyais.
Il gagne en responsabilité, donc. Ouais,
pour tenter de combler votre incompréhension, permettez à un ancien secrétaire national de l'UMP de vous dire ce qui peut se passer dans la tête d'un républicain.
Oui, ça m'intéresse.
Eh ben, à mon avis.
Comme curiosité ethnologique.
Oui, mais bien sûr. Je croyais que vous alliez dire zoologique.
Non, j'ai eu peur. Je ne me suis pas permis
j'ai
ça.
J'ai eu peur. Non, mais il faut dire que les derniers mois de M. Macron ont été, pour un républicain de bon aloi, un peu difficiles. Il y a une et ce qui explique d'ailleurs ces mécomptes électoraux. Il y a eu une gauchisation de la macronerie.
La macronerie ou la macronie ?
Macronie, pardon.
C'est un lapsus.
C'est un lapsus à la limite que je suis obligé d'assumer.
Je suis obligé d'assumer,
mais il est involontaire, hein, comme tout lapsus.
Ouais. Ça va. Non, vous êtes un bon avocat. Hein.
C'est quelqu'un qui a voté, qui a désigné M. Papendaï à la place de M. Blanquer. C'est quelqu'un qui...
Là aussi, on a diabolisé M. Papendaï. Moi, je suis en train de lire ses interviews.
Il est en train de se couler dans le moule.
Il a un peu été jugé rapidement.
Vous qui allez un peu vite. Moi, quelqu'un qui dit qu'un blanc qui est agressé, c'est pas du racisme parce qu'il fait partie du peuple dominant. J'ai du mal à considérer que c'est quelqu'un de conciliant. Mais je peux me tromper. Non, mais dans l'esprit. Attendez.
Les
républicains se trompent. Je tente d'expliquer que dans l'esprit d'un républicain, ce genre de signaux, sans parler de la politique économique. Je sais bien que M. Drey a été très favorable au quoi qu'il en coûte, mais pour les républicains qui sont en principe très soucieux des problèmes d'équilibre budgétaire, de dette, la position de la France, quand vous la comparez à l'Italie...
Ils auraient peut-être fait la même chose, franchement.
Pardon ?
Ils auraient peut-être fait la même chose.
Non, mais je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ont raison. C'est pour combler l'incompréhension. Je vous dis que le dernier... Et de manière sociétalement, en dehors même de l'économie où M. Macron est devenu de gauche, alors qu'il venait plutôt de... Enfin, c'est un ancien ministre de l'économie de votre ami M. Hollande, quand même. Hein. En dehors, il vient pas. Mais en dehors de ça, sur le plan sociétal, c'est quelqu'un qui voulait pas qu'un blanc envoie un rapport à un autre blanc. C'est quand même quelqu'un qui est vécu, et je crois que ça n'est pas une illusion, comme quelqu'un de gauche. Donc pourquoi voulez-vous que les républicains qui ont été plutôt maltraités volent au secours de monsieur Macron
pour l'intérêt des Français.
Mais pour une raison simple, c'est que leurs électrices et leurs électeurs leur ont apporté une réponse. Déjà au premier tour de la présidentielle, ils ont quand même, pour une part importante, on se souvient du score de Valérie Pécresse, choisi Emmanuel Macron. Ils se sont dit, notre famille, elle est plutôt là.
Et bien ceux qui restent...
Oui, c'est le dernier des Mohicans.
Ceux qui restent, on va dire que c'est le noyau dur et qui sont davantage à droite sur le plan économique et sociétal. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils aillent ? Alors maintenant, cas par cas, je ne veux pas caricaturer ma propre pensée, cas par cas, sur des projets de loi qui trouveraient leur agrément, ils ne vont pas refuser sous prétexte que c'est M. Macron.
Oui, d'accord, mais donc ça revient, si vous voulez, ça revient à une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire de dire d'un côté, nous on est encore la droite dure, etc., mais au cas par cas, on est avec M. Macron.
Mais pourquoi si c'est une loi qui leur convient ?
Oui, d'accord, mais donc dans ces cas-là, il faut...
Quoi, il aurait dû faire une coalition ? Ils auraient dû...
Alors pourquoi vous n'envoyez pas les choses ?
Moi, je pense que je ne vais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas sur le fond, hein. Je donne mon avis de manière extérieure, parce que j'ai assez de problèmes personnels à régler à gauche pour aller essayer...
Ah, c'est réglé, mais
vos conseils sont les bienvenus.
Voilà, mais... De, je trouve que la cohérence de leur point de vue, ceux qui comme se sont exprimés chez eux, leurs grands dirigeants, que je connais un peu, que je les ai fréquentés à l'Assemblée nationale, c'est eux qui avaient raison. Ils avaient tout intérêt à faire une coalition avec Emmanuel Macron, parce que, vu la situation dans laquelle ils se trouvaient, il aurait été obligé, y compris sur le plan économique et social peut-être, de leur faire des concessions, qu'il leur fera moins dans l'hémicycle, parce qu'il va chercher des équilibres, etc. Mais tout ça n'est pas pour le fonctionnement de la vie démocratique du pays, on est presque dans de l'esthétisme parlementaire.
Poussez votre raisonnement jusqu'au bout. Pourquoi, dans ce cas-là, M. Macron ne nomme pas comme Premier ministre une dame Vautrin ou quelqu'un d'autre?
Ça sera peut-être le cas la semaine prochaine.
Visiblement, il y a pensé.
Ça serait peut-être de nature, justement, à pousser les Républicains à faire quelques concessions.
Mais est-ce que ça suffirait? Je ne sais pas.
Je vais faire l'explication jusqu'au bout. Mais peut-être qu'il ne l'a pas fait parce qu'il attendait des signes qui n'ont pas été donnés, ou des certitudes qui n'ont pas été données. Je ne sais plus où on en est.
On marque une toute petite pause, on revient dans un instant. Mais il y aura... oui, très très rapide, bien sûr, toujours, tout de suite. De retour dans cette dispute avec mes invités Julien Drey et Gilles-William Goldnadel. On continue de décrypter cette folle semaine à l'Assemblée. On était un peu pessimiste pendant la pub quand même, mes chers amis, sur ce qui se passe dans la vie politique. Non, mais c'est vrai que c'est difficile de la lire aujourd'hui, la vie politique. Ouais. On ne sait pas trop.
C'est difficile parce qu'il y a eu un accident industriel qui était, il faut être honnête, peu prévisible au soir du premier tour de la présidentielle.
Ouais.
La logique dans laquelle on avait vécu, je dirais, ces 20 dernières années, c'est y compris au regard du score du président au premier tour, on pensait qu'il allait gagner au deuxième tour, et que dans la foulée, il gagnerait l'élection législative, et qu'il y aurait une forme de stabilité. On était d'accord ou pas d'accord, mais ça, là, on est rentré dans une forme d'instabilité dont personne n'est capable de bien lire ce qu'elle représente, y compris en plus avec le taux d'abstention, qui est important, parce qu'on ne sait pas bien tout ce que ces abstentionnistes pensent vraiment de la situation actuelle.
J'ai oublié le flash info. Ah. Jeanne Cancar, et juste après, on revient sur ce débat.
Alors, le flash.
C'est un oubli regrettable.
Face à la guerre en Ukraine, la Norvège annonce un don de près d'1 milliard d'euros à Kiev. Une aide qui doit servir d'aide humanitaire à la reconstruction du pays et aux achats d'armes. L'annonce a été faite à l'occasion de la visite aujourd'hui du Premier ministre norvégien dans la capitale ukrainienne. Le Japon, touché par des températures records, craint une pénurie d'électricité. Les autorités demandent en ce moment à la population de réduire leur consommation en énergie alors que les réserves du pays sont au plus bas. À Zinave, au Mozambique, des rhinocéros blancs ont été réintroduits dans un parc naturel. Il s'agit des premiers en plus de 40 ans. Le groupe environnemental qui a mené le projet d'insertion prévoit de plus que doubler la population de rhinocéros du parc au cours des 3 prochaines années.
On aura témoin l'opinion.
Bien sûr. Voilà pour le flash info de Jeanne Cancar. C'est vrai, Julien Drey, on se disait, on est assez inquiet de l'avenir finalement politique de notre pays. Parce que
je pense qu'on va avoir, si vous me permettez... un mouvement, alors après, on va voir un double mouvement. On va voir une assemblée, comme le disait d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, et qui va se laisser entraîner dans ce qu'on appelle la reparlementarisation des institutions de la Ve République, et qui va vouloir s'affirmer. Mais de l'autre côté, c'est là où la question est posée désormais, c'est est-ce que le président, lui, justement, n'a pas intérêt à se représidentialiser. C'est-à-dire à faire, si vous me permettez, je sais que ça va vous paraître un peu...
Oui, j'essaye de suivre. Oui,
et de faire un peu ce qu'avait fait François Mitterrand pendant la cohabitation, ou même Jacques Chirac. C'est-à-dire, l'Assemblée, c'est l'Assemblée, et moi, je deviens l'ami de toutes les Françaises et les Français. Tout le bien, c'est pour moi, tout le reste, c'est pour les autres.
Mmh. Oui, mais là, c'est l'immobilisme, alors.
C'est une forme d'immobilisme, mais c'est une forme de reconstruction d'une image qui fait qu'il devient une sorte de référence parce que, bon, pour ceux qui se souviennent, c'est François Mitterrand qui allait, dès qu'il y avait la moindre grève, saluer les grévistes, dès qu'il y avait le moindre incident, et c'est Jacques Chirac qui a fait la même chose. Donc c'est une reconstruction d'image qui fait que... Et l'Assemblée devient à ce moment-là le lieu du chahut, de la paralysie, et donc lui, ça débouche sur une crise à un moment donné où l'un prend le pays à témoin en disant « Moi, voyez, je suis celui qui veut faire avancer les choses, et c'est les autres. »
Serait 50 perdus, finalement.
50 perdus,
ou 50 gagnés pour certains.
Je ne sais pas, 5 ans, parce que je ne suis pas sûr qu'un système comme ça peut durer 5 ans, d'autant que lui, il n'est pas candidat à sa réélection. Ouais. Les deux autres, ils avaient ça dans la tête. Donc lui, il est plutôt candidat, retrouver une forme de stabilité institutionnelle. Ouais. Maintenant, je voudrais revenir sur un sujet que je n'ai pas eu le temps de répondre. Moi, je suis d'accord sur une question qui est posée. Si le discours de la gauche ne consiste qu'à continuer à diaboliser le Front National, Je l'ai déjà dit, je pense qu'il faut combattre les positions du Front National. Dieu sait si j'ai des désaccords très profonds. Mais je pense que la référence à l'histoire dans le combat contre le Front National était utile quand c'était le père. Elle ne marche plus en France. C'est ça.
Donc, quand est-ce on que me le dit, RN est d'extrême droite pour vous, Julien Drey?
Non, mais il est d'extrême droite, mais pas au sens de ce que on appelait l'extrême droite quand j'étais jeune. L'extrême droite, quand j'étais jeune, on l'a renvoyé à l'histoire. C'était le fascisme, c'était Mussolini, c'était Hitler, etc. Et tout. Et aujourd'hui, il y a une grande partie de l'opinion, d'abord, qui ne connaît pas cette histoire-là, et qui ne les juge pas comme ça. Et donc, cette diabolisation, elle ne marche plus. Quand on dit la digue républicaine a sauté, c'est que pour une grande partie de la population, ce n'est pas parce que les partis politiques, ça ne marche pas. Ça veut dire que le Front National, il faut le combattre maintenant sur son programme économique, s'il en a un. Est-ce qu'il est applicable? Il faut le combattre sur son programme, sur toutes ses mesures identitaires, tout ce que vous voulez. Mais je pense que c'est là que ça se passe. Et la reconquête de l'électorat du Front National, si on veut l'électorat populaire, on ne le fera pas en évoquant l'histoire.
Gilles William.
Non, mais ça n'a aucun sens. Ah. Dans le sens où... alors, c'est... évidemment...
Allez-y par étapes.
C'est le parti le plus à droite.
Ouais. Sur une petite parenthèse, d'ailleurs, Marine Le Pen avait demandé à ne pas être à l'extrême droite de l'hémicycle.
Non, mais géographiquement, non, mais ce que je veux dire, par rapport aux critères de l'extrême droite des années 30, il n'y a plus de racisme, il n'y a plus d'antisémitisme.
Il y en a un peu.
Alors, bon, il y a eu quand même, pour être très honnête, il y a eu certains candidats aux législatives qui ont été retirés, plusieurs dizaines même, parce qu'ils étaient
Je veux bien aller regarder tout, mais de manière générale, la politique de ce parti, il n'y a plus de discours raciste, il n'y a plus de discours antisémite, il y a le respect démocratique des urnes. Donc on est des années-lumière avec l'extrême droite des années 30. En ce qui concerne l'extrême gauche, pardon de le dire, il y a un flirt avec l'antisémitisme, il y a un flirt avec l'islamisme, clairement, et on explique que Fidel Castro et Maduro, c'est très bien, et on explique que si ça ne marche pas dans les urnes, on ira dans les rues. Si ça, ce n'est pas l'extrême-gauche, j'ai un problème de vocabulaire. Et en dehors même de ces définitions-là, ce qui encore m'insupporte, c'est que c'est les gens qui veulent donner des leçons. C'est justement ces gens-là que M. Julien Drey ou que quelqu'un d'autre, même de manière erronée, les considère encore comme extrême droite, ça me gêne moins que lorsque ce sont des gens, encore une fois, qui flirtent avec ce que je viens de vous dire, qui se permettent de refuser la main à quelqu'un. C'est pour ça que je préconise, puisque vous savez que mon combat, c'est précisément contre l'extrême-gauche pro-islamiste et pro-antisémite islamiste, c'est justement de préconiser, vous ne voulez pas serrer la main aux autres, eh bien maintenant, on ne vous serrera plus la main. C'est ça que je préconise, dans le cadre, je l'avoue, d'un combat culturel et politique. Par ailleurs, mon pessimisme, il est, si j'ose
c'était
dire...
C'était ça, sur l'avenir
politique. Mon pessimisme, c'est pour répondre à votre question. Ouais. Mon pessimisme, qui n'est pas une pose, qui n'est, c'est pas une posture, je n'ai pas plaisir à vous le dire, il est à la limite moins politique que sociétal. C'est comme je dénie à ces gens-là le caractère démocratique, c'est que je sais bien qu'ils vont essayer, dès septembre-octobre, de faire une alliance avec les syndicats les plus extrémistes, et si ça ne marche pas, ils iront chercher des antifas, et si ça ne marche pas, ils iront chercher quelques amis dans les quartiers, et voilà pourquoi, personnellement, effectivement, je suis effectivement pessimiste, d'autant plus que, dans l'appareil d'État, le président de la République, alors je sais bien qu'il peut effectivement décider de prendre à témoin du tohu-bohu parlementaire, mais le président de la République, on ne peut pas dire qu'il inspire une immense confiance aux Français, ni en matière de sécurité, matière d'immigration, ni rien. On n'a pas un recours suprême, si vous voulez. C'est pas Papa de Gaulle. C'est quand même autre chose.
Mais personne n'est Papa de Gaulle.
Si je peux essayer d'en placer une. Moi, je pense qu'il faut faire attention non plus de pas. Je comprends qu'on puisse avoir des accords. Pas non plus diaboliser. D'abord, le terme extrême gauche. Il y a tout là-dedans. Hein.
LFI n'est pas extrême gauche, puisque vous avez posé la question sur
l'extrême droite. Non, je pense que c'est une gauche radicale. Je préfère le terme extrême gauche, je ne veux plus rien dire, parce qu'à ce moment-là, je préfère une gauche radicale. Et dans cette gauche radicale, il y a une aile pro-islamiste. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, qui a une conception de ce que représente aujourd'hui le combat d'un certain nombre de gens contre l'impérialisme américain, étant des potentiels alliés. Donc, je pense qu'il. Voilà. Oui. Voyez, par exemple, je vais vous faire une remarque amicale, mais quand M. Bardella dit c'est un dur de la LCR, etc., je pense qu'il se trompe. La LCR, c'était pas ça. Mais ça, c'est pour ma génération. Voilà. Mais il se trompe parce qu'il se bat contre un mauvais ennemi, d'un certain point de vue.
Lui aussi. C'est de la politique.
Non, je pense que la politique, c'est la précision des termes et des caractérisations si on veut être efficace. Voilà. Parce que sinon, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas diaboliser non plus la LFI, parce que ce n'est pas non plus les nouveaux bolcheviks rouges avec le couteau entre les dents qui vont égorger les petits-enfants, etc. Et tout. Voilà. Donc, moi, je crois peu, si vous voulez, aussi histoire de troisième, de quatrième tour social dans la rue, qu'on nous annonce, qu'on nous prédit. Voilà. J'ai pas le sentiment qu'il y ait cette attente-là dans le pays.
Avec l'inflation, avec tout ça.
Oui, mais l'inflation, c'est quand vous avez, c'est parce que vous avez faim. Et quand vous avez faim, vous essayez d'avoir un meilleur salaire.
Mais je pense que
essayez de voir, mais ça passe pas forcément. Ça, c'est, vous savez, les grèves, les manifestations, il faut plutôt avoir une situation à l'aise qu'une situation de précarité. Ou alors, on est dans la situation des gilets jaunes. Ça, c'était des gens qui étaient poussés à bout, qui n'en pouvaient plus.
Oui, c'est surtout ça dont je parle.
Oui, mais moi, j'en ai tellement entendu des annonces qui disaient à la rentrée sera chaude, vous allez voir,
c'est vrai, les manifs, c'est vrai,
etc. Et tout. Moi, je vous dis d'abord, les organisations syndicales, elles sont fragiles, elles n'ont plus la force qu'elles avaient avant, et la combativité, d'abord dans le privé, regardez, il y a la combativité du public et du privé, et la combativité du privé, c'est que pour l'instant, eux, ils sont en train d'essayer d'obtenir des augmentations salariales, et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que ils commencent à les obtenir parce que il y a une frilosité, il n'y a pas une frilosité, il y a un calcul d'un certain nombre de grands patrons qui se disent qu'il vaut mieux redistribuer des dividendes que d'être sur la sellette et de ne pas s'en sortir.
Bah, voilà. 7 ans.
Alors après, il y a dans les services publics, le vrai problème qui est posé, c'est pas tant le salaire, c'est la qualité du travail et des services publics. Et là, il y a une crise latente dans le pays. Parce que comme on n'a pas remis à plat tout le fonctionnement de ces services publics, il y a des endroits où c'est explosif, l'hôpital, par exemple. Ouais, et puis, il y a des endroits, toutes les administrations, où les gens n'en peuvent plus. Ils n'y comprennent rien.
Mais il y a une privatisation progressive, quand même.
Ouais, enfin, la privatisation...
On va pas venir,
moi, je peux vous la raconter. La privatisation... La privatisation d'EDF, c'est que vous avez 6 numéros de téléphone juste pour faire réparer quelque chose.
Gilles William.
On dit, c'est pas moi, c'est l'autre service, c'est ce service-là. Et là, oui, il y a un ras-le-bol dans le pays.
Gilles William. D'abord. Non, mais je voudrais quand même répondre à Julien Drey. J'arrive pas à comprendre comment d'un côté il parle de gauche radicale et de l'autre côté il parle d'extrême droite. Je comprends pas la terminologie.
Alors, je veux bien vous dire droite radicale.
Voilà.
Ça vous arrange.
Non, mais c'est bizarre. Attendez, laissez-moi parler. Même pas 20.
Julien, je vous donne la parole même juste après, mais il y a une répartition qui est importante.
Non, mais ce que je veux dire, c'est le planisphère politique français, jusqu'à peu, n'avait qu'un seul côté. C'est quand même invraisemblable. Et quant à la diabolisation, personnellement, je ne suis pas pour les rites sataniques. Je ne connais pas de diable, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis certain, je vais vous le dire maintenant, j'en connais certains, au sein de la France insoumise, il y a des gens très bien. Moi, sur le plan amical, il m'arrive d'avoir des amitiés plus fortes à gauche qu'à droite.
Ah oui.
Mais bien sûr. mais évidemment, vous savez, il faut se méfier.
La réciproque est vraie.
Mais c'est vrai.
On apprend les choses.
Mais bien sûr.
Mais comme vous aviez des propos qui étaient quand même très durs. Vous voyez ce que je veux dire?
D'abord, donc je ne suis pas dans la diabolisation. Et comme il n'y a qu'un seul diable... Au regard, s'il faut vraiment diaboliser, au regard de ce que je vois aujourd'hui, pardon de vous considérer que la figure regrettable du diable, moi, en matière de dangerosité, pardon de vous le dire, est davantage très à gauche qu'à très à droite. C'est mon analyse. Quant à ce qui peut se passer le troisième, quatrième tour dans la rue et ailleurs, pardon de vous le dire que notamment dans les services publics des transports, je ne peux pas sous-estimer la capacité de nuisance de ce pays exceptionnel qu'est la France, personne n'envie cela, de mettre à plat justement la France en raison des services publics des transports. C'est une spécialité extraordinaire. Je vous signale que là, déjà, au mois de juillet. Vous avez vu comment ça se passe?
Il y a une grève dans les aéroports.
Mais regardez ce qui est en train. Si vous me permettez pour répondre, je fais juste une remarque, c'est que d'un côté Gilles William me dit qu'il connaît pas le diable, mais visiblement il sait le décrire. Bon, mais ça c'est une plaisanterie amicale. Moi, je dis simplement que il y a un malaise dans la société française, c'est incontestable, qui est très profond.
Très, très profond.
Qui est très profond, qui se traduit par l'abstention. Il y a des discrédits très forts à l'égard d'un certain nombre d'institutions qui jusqu'à maintenant étaient respectées, commencé par la police, par exemple par la justice, et ça interroge ces institutions sur la manière dont elles se comportent. Est-ce que tout ça va donner lieu à une explosion généralisée? C'est une possibilité, mais je crois plutôt que ça va donner lieu à une désespérance qui s'installe.
Oui.
Une désespérance où c'est plutôt la solution
individuelle. C'est-à-dire que c'est une lassitude, il y a une espèce d'usure.
La solution individualiste. Je me barre des grandes villes, je vais me mettre dans une petite à la campagne, je vais protéger mes gosses.
Être survivaliste. Puis,
une forme de survivalisme, etc. C'est pour ça que la question qui est posée, c'est de recréer un projet collectif et de redonner envie à ce projet collectif. Et donc ça passe effectivement par des réformes. Et là, c'est là la question qui est posée du moment dans lequel on vit. C'est le moment où ce pays aurait besoin de grandes réformes pour remettre à plat un certain nombre de questions qui sont posées dans ces institutions, justice, police, éducation, santé. Et le risque, c'est qu'on fasse que du replâtrage juste pour répondre à l'urgence.
Oui, mais le drame, c'est que ces réformes n'ont pas eu lieu, par temps calme. Et là, ça ne va plus être le temps calme, y compris sur le plan économique et financier.
Oui.
La crise économique et financière qui vient, vous avez actuellement déjà... Non, je ne vous parle pas de l'inflation, mais il peut y avoir... Demain, une crise de l'euro très grave. Regardez déjà la parité entre l'euro et le dollar. Donc,
oui, mais j'y crois pas trop, ça. On va injecter des liquidités. Des billets, les banques centrales, elles vont injecter.
Alors, il y aura, on n'est pas dans la même situation que dans les années 80. L'Allemagne a énormément besoin de la France.
Oui.
Y compris par rapport à ses propres problèmes internes. Donc, elle ne va pas faire le méchant maître d'école qui rappelait sans arrêt la France à l'orthodoxie économique. Mmh. Elle va être obligée, elle aussi, de s'appuyer sur une forme de liberté.
Ce que je veux dire, c'est que depuis 2008, on nous dit tous les ans que ça va s'effondrer.
Je ne crois pas à l'explosion. Je ne crois pas qu'on va dans une explosion du système monétaire, etc. Et tout. Bon, je pense qu'il y aura de la liquidité qui va être remise. La question qui est posée, elle est tout autre, si vous me permettez. C'est est-ce que l'Europe va être capable de comprendre qu'elle est tombée dans un piège dans la guerre en Ukraine, et que si elle ne prend pas la responsabilité de préparer un vrai cessez-le-feu pour des vraies négociations, c'est elle qui est en train de payer le prix. Parce que, contrairement à ce qui se raconte sans arrêt, y compris pas sur CNews, mais dans d'autres chaînes d'infos, mais la Russie, elle n'est pas du tout isolée. Et vous avez une photo qui était extraordinaire, si vous me permettez. Une photo qui montrait tout, qui réexpliquait tout. Une photo où vous aviez les dirigeants du G8 qui étaient en bras de chemise, en train de se fraterniser, de rigoler.
Et les autres de la BRICS.
Et de l'autre, les autres de la BRICS, qui eux étaient sérieux. Et il y avait d'un côté 3 milliards d'hommes, de femmes et d'hommes, et de l'autre côté 1 milliard. Et la Russie, elle est en train de se reconstruire. Tous ceux qui vont en Russie vous diront qu'en Russie même, tous les magasins sont là.
Oui,
mais les enseignes, elles ont été repeintes
autrement.
Juste le
flash info de Jeanne Cancard qui nous attend.
Comme des conclusions de la mission flash sur les urgences, Elisabeth Borne dit retenir toutes les propositions qui ont été faites pour désengorger les hôpitaux cet été. Parmi ses réponses de court terme, elle a notamment confirmé un complément de rémunération pour le travail de nuit lors d'un déplacement aujourd'hui à l'hôpital de Pontoise dans le Val-de-Marne. C'est le Belge Yves Lampaert qui remporte la première étape du Tour de France. Il endosse ainsi le maillot jaune grâce à sa victoire du contre-la-montre dans les rues de Copenhague. Quant à Tadej Pogacar, le double tenant du titre, il décroche la troisième place de l'étape. Après un violent orage qui a fait plusieurs blessés, le festival des Eurockéennes à Belfort est censé reprendre demain dès 16h, a annoncé son président lors d'une conférence de presse. Les deux premières journées, qui auraient dû se tenir aujourd'hui et hier, elles ont dû être annulées en raison des conditions météo.
Bon, je voulais vous montrer une image de fin, c'était le drapeau européen qui rentrait dans le Parlement ukrainien. Mais on va d'abord écouter Sandrine Rousseau, qui réagissait justement à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, deux députés du Rassemblement national. Écoutez.
C'est pas la même chose de dire qu'il faut une juste répartition et dans ces cas-là, il fallait que les 89 voix du RN aillent au RN et de faire marche-pied pour qu'il soit vice-président de l'Assemblée nationale. Et on l'a vu hier avec les propos qui ont été tenus par le président de l'Assemblée nationale, temporaire, de doyen d'âge. Ça n'est pas la même chose de tenir ces propos-là depuis l'hémicycle ou depuis la tribune de l'Assemblée nationale. Nous avons voulu montrer le double visage de l'REM et sa double stratégie entre des discours publics et des discours et des attitudes de vote. Eh bien voilà, c'est montré et je suis très fière d'avoir réussi à montrer ça.
Ah oui, et dans son rôle.
Oui, c'est dans son rôle de la forfanterie d'extrême gauche qui ne tolère pas qu'un homme puisse, en termes totalement simples, sans aucune provocation, parler du drame des pieds noirs d'Algérie. Vous avez beaucoup de gens.
Oui, mais c'est pas qu'à la tribune.
Je parle sous le contrôle de Monsieur Drey. Il y a beaucoup de gens qui ont soutenu l'Algérie algérienne et qui reconnaissent qu'il y a eu un drame des pieds noirs d'Algérie. Et Madame Rousseau n'a pas compris ça.
Oui, mais c'est sur le est-ce que c'est...
Si vous pouvez me permettre, le doyen je l'ai vécu, le doyen, il raconte son histoire. Moi, j'ai vécu M. Dassault raconter son histoire. J'ai vécu M. Dupont raconter son histoire. Ce n'était pas forcément le doyen raconte son histoire. Et ce monsieur, je reconnais que j'ai pris le temps de bien lire les propos qu'il a tenus. Il a pas fait, il a raconté sa propre histoire de pieds noirs d'Algérie. Ouais. Et excusez-moi de vous dire, il y a 1 million de pieds noirs d'Algérie qui étaient ni des racistes, ni des fascistes, et qui voulaient rester dans ce pays, qui espéraient même une Algérie dans laquelle ils auraient leur place. Ça existe aussi, et on peut pas tirer un trait là-dessus.
Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir participé à cette dispute. C'était très intéressant. C'est Julien Pasquet qui prend la main dans un instant pour l'heure des Pro 2, et moi, je vous retrouve à 21h. À tout à l'heure.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.